votre attention pour ce message. On va simplement lire trois versets pour commencer parce qu'on va les regarder tous à travers le message. Donc, les deux premiers puis le dernier verset, l'ouverture et la fermeture du chapitre 9. Donc, 2 Corinthiens 9:1, « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Évidemment, le dernier verset, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Seigneur, merci pour Jésus. Merci que tu nous as donné pleinement, tu nous as donné plus que juste des belles paroles, que des choses tu t'es donné toi-même. Et Seigneur, en retour, on veut se donner pleinement, joyeusement, volontairement, Seigneur, corps et âme, sans restriction. Parce que Seigneur, tu le mérites. Tu mérites ce qu'il y a de mieux et pas comme fruit de culpabilité ou par peur, mais par reconnaissance. Seigneur, que dans nos cœurs, la puissance de la reconnaissance soit renouvelée. On va voir ça dans le message aujourd'hui, dans ce texte. Seigneur, ta grâce se multiplie par la reconnaissance. Simplement reconnaître, être reconnaissant, te remercier pour toi, le don merveilleux que tu es. Donc Seigneur, on s'attend à ce que tu nous guides dans ce temps, dans ta parole, que tu nous enseignes, que tu nous transformes. Accomplis tes plans, Seigneur, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est simple aujourd'hui le message, donner à la lumière du don. Ici, c'est un passage dans les lettres aux Corinthiens où est-ce qu'il est question de la fameuse assistance destinée aux saints de Jérusalem. Et c'est ça que je veux prendre le temps un peu de vous expliquer, là, mettre un peu les versets qu'on a lus en perspective, leur vérité historique sous-jacente. C'est à comprendre, évidemment, ce qu'on a lu là, à la lumière d'une collecte qui était faite pour les saints de Jérusalem. Et tout ça, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais je veux surtout mettre l'accent sur le fait que, au-delà de ce que les humains faisaient, puisque c'est que tout ça est à la lumière du don suprême, de la prééminence du don de Dieu. Parce que si les païens pouvaient donner comme ça, c'est parce que Dieu était venu dans la ville de Jérusalem, Jésus qui a été sur la croix et tout ça. Et maintenant, parce qu'on sait tout le bagage juif, l'arrière-plan juif de tout ce qui est de notre héritage spirituel, hein, Abraham et tout ça, puis bon. Et donc, les païens le devaient, c'est ce qui est dit aussi ailleurs dans la parole de Dieu, ils le devaient dans le sens que le salut vient des Juifs et tout ça, et donc, par reconnaissance, ils disaient, ben vous qui êtes dans le besoin maintenant, parce qu'il y avait une famine, puis bon, c'est une situation difficile à Jérusalem, on vous donne parce qu'on est reconnaissant d'avoir connu le Messie. C'était ça toute l'idée de la collecte. C'était pas quelque chose d'imposé, puis tout ça, c'était pour manifester leur reconnaissance pour le don merveilleux de Jésus-Christ. Et donc, il y a question de toute la question de la provision. Et en passant, quand Dieu a dit pour la première fois, Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça, c'est avec Abraham, avec Isaac, mais des centaines, milliers d'années plus tard, l'Éternel a donné son fils et sur la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Bien mieux qu'Isaac, plus grand et meilleur qu'Isaac, Jésus lui-même, le plus grand et le meilleur Isaac. Et donc, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Oui, il va y avoir la question de l'argent, parce que c'est dans le contexte aussi, c'est mis de l'avant là-dedans. Je parle presque jamais d'argent. En fait, n'es-tu parlé cette année? J'essaie de me rappeler, y a-tu un message? C'est pas un message sur l'argent aujourd'hui, là, mais il va passer dans le texte. Mais aujourd'hui, c'est un message sur le cœur, mais parce que ça va voir la disposition de notre cœur face à ça. Cette réalité quotidienne à laquelle personne n'échappe. Mais c'est vraiment, comme un peu on le fait avec la série dans les dimanches après-midi, de considérer toutes ces choses à la lumière de la croix. à la lumière du don ultime de Dieu, de sa provision pour notre plus grand besoin. Et donc, on va considérer tout ça. Et il y a un côté pratico-pratique où est-ce que ça va nous aider aussi dans le contexte de comprendre pourquoi, et j'ai dit que j'allais l'expliquer, mais c'est aujourd'hui. Les offrandes promises par la foi, c'est quoi cette idée-là? C'est justement, ça, c'est basé sur ce contexte historique-là où est-ce que, volontairement, comme individu et comme Église, on met à part pour l'œuvre missionnaire. Et je ne vais pas rentrer dans les technicalités de tout ça. Pour ceux qui ont besoin d'explications, je vous le dirai individuellement. Mais c'est ça l'idée, des offrandes promises par la foi. C'est comme dans le contexte ici, c'était des églises locales qui donnaient pour des choses qui étaient complètement en dehors de leur œuvre locale. Et donc, c'est ça. Je pense que j'ai un peu démêlé ici le contexte historique. Mais je veux surtout amener le point central ici. C'est que pourquoi il y avait des gens qui étaient dans le besoin, il y avait des gens qui ont été touchés, puis tout ça. C'est tout à cause du sacrifice de Christ, du renversement universel, de le dernier Adam, Jésus qui est venu. Le premier a amené tous les problèmes avec lesquels on a à vivre. Il a amené la mort, il a amené la mort relationnelle, il a amené toutes sortes de complications à cette vie ici sur Terre, c'est ce qu'on appelle la chute. Mais Jésus, le dernier Adam, est venu complètement tout renverser, et c'est ça l'idée du don. Et ça doit renverser toutes les façons de voir la vie, puis c'est pour ça que je vais venir avec cette phrase-là à la fin du message, mais je vous la dis tout de suite parce que ça vaut la peine d'être répété. Je crois que ce qu'on considère aujourd'hui, ça amène une révolution. Comment je l'ai phrasé? Attendez un peu. Il y a le mot révolution, mais là, je ne suis pas sûr de l'autre mot. Là. Excusez. Une révolution de la mentalité chrétienne. Puis vous allez comprendre pourquoi à travers le message, mais c'est tellement facile comme chrétien de tomber dans l'hommerie, dans les raisonnements humains et tout ça. Et mon message, c'est vraiment pour amener la puissance d'un cœur reconnaissant, la puissance de vivre à la lumière de la croix, la puissance de vivre à la lumière du don ultime de Dieu. C'est pour ça que le titre du message est « Donné à la lumière du don ». Et c'est ce qu'on voyait ici avec l'œuvre missionnaire, donc il est question ici. Puis en passant, quand on a lu tantôt dans chapitre 8, verset 1, il dit « Je veux vous faire connaître la grâce qui s'est manifestée. Dieu s'est donné aux Macédoniens. Dieu s'est donné non seulement sur la croix, mais aussi il a donné de sa grâce pour qu'ils puissent connaître personnellement ce sacrifice merveilleux. » Et ça, ça l'a débordé. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit, que lorsqu'on est reconnaissant pour ce qu'on reçoit, puis qu'on a le cœur qui est touché comme ça, ben forcément, ça va déborder, ça va ressortir. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde avec trois dispositions de cœur pour donner à la lumière du don. On a ça dans notre texte. D'abord, le zèle du cœur. Regardez avec moi les versets 1 à 5. Je vais vous faire remarquer un verset, mais on va lire les 5 au complet. « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe, ça c'est la région dans laquelle Corinthe était, est prête depuis l'année dernière et se zèle de votre part à stimuler le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Donc ici, c'est vraiment Paul qui dit « J'ai envoyé du monde pour aller prendre » parce que, tu sais, c'était pas des virements bancaires à l'époque, là, il y a vraiment, c'était de l'argent sonnant, littéralement, qui était donné, puis c'était un gros pot, puis c'était gros, c'était, tu sais, et donc, il a envoyé du monde pour préparer ça, puis tout ça s'en allait à Jérusalem. Mais remarquez comment tout ça commence, avant de rentrer dans les technicalité, j'ai envoyé du monde, tout ça, pour que vous soyez prêts. Il dit, je connais en effet votre bonne volonté. Le mot ici traduit par bonne volonté, ça réfère au fait d'être prêt, d'avoir une pensée là, dans notre esprit, d'être voué à quelque chose, d'être disposé, d'avoir déjà à l'avance une attitude qui montre qu'on est prêt. C'est traduit à d'autres endroits, comme dans 8-11 par empressement. Et d'ailleurs, dans Actes 11, 17-11 aussi, c'est les Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Attendez, j'ai noté ça ici. Actes 17-11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est notre mot ici. Zèle, OK, avec beaucoup d'empressement. Donc, des fois, c'est traduit empressement. Des fois, bonne volonté, comme ici dans notre verset, puis aussi à deux reprises dans le chapitre 8. L'idée, c'est vraiment être zélé de cœur. C'est pour ça que j'ai intitulé ce point, le zèle du cœur. On comprend ici, dans le fond, qu'il est question de notre motivation à donner, à se donner. Et ce que Paul ici leur rappelle aux Corinthiens, puis ce qu'il leur explique, c'est qu'il s'est vanté. Paul s'est vanté des Corinthiens, de ce que les Corinthiens avaient cette disposition. Il dit, hey, il était dans les églises de Macédoine, hey, à Corinthe, ils sont zélés, là, ils ont une bonne disposition, ils sont déjà empressés pour donner pour cette œuvre de bienfaisance, pour donner pour cette collecte au sein de Jérusalem. Et c'est le sens vraiment de ce qu'il leur communique, puis on pourrait le dire, pour paraphraser Paul, avec ce qu'on vient de lire, j'espère que ce zèle, cette disposition que vous avez montrée, ce n'est pas estompé, parce que je compte sur vous autres. Autrement dit, c'est ça qu'il nous dit dans les versets qu'on a lus. OK? Bon, maintenant que j'ai expliqué le texte, j'aimerais en tirer une application. Bien simple, par rapport à nous autres, ici, à l'Église baptiste de Saint-Augustin, je suis vraiment reconnaissant de ce que, depuis des années, notre Église a montré une disposition, un zèle du cœur pour l'œuvre missionnaire. Le mur qui est là le démontre. C'est des dons qui sont donnés que nous, on n'en profite aucunement matériellement ici. Mais c'est du fruit sur notre compte. On se réjouit avec les gens qui viennent au Seigneur à travers ça. Comme on a eu la lettre des Bérets-Saint-Gars, ils sont prêts à partir, puis on est avec eux autres, puis les petits orphelins qui sont là, puis on voit que c'est, dans le fond, ça sort tout d'ici, ce qu'on donne pour ça, mais ça nous revient en bénéfice spirituel, puis on abonde en action de grâce, on dit « Waouh, merci Seigneur », puis tout ça. Et donc, je rends grâce à Dieu parce que c'est une réalité qu'on vit depuis plusieurs années, et c'est un zèle du cœur, et j'en suis vraiment reconnaissant. Je rends grâce à Dieu, pourquoi? Parce que ça va avec le psaume le plus court de la Bible. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Ça fait qu'il y a des gens partout dans le monde qui vont louer l'Éternel, ceux qui ne connaissaient pas, qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, la grande lumière de Jésus-Christ, lui, sur eux autres. C'est pas nous autres, là, je ne veux pas dire ça là, pour c'est tout de notre faute. Non, mais on a ce privilège de contribuer à ça. Et on montre un zèle à dire, oui, je veux que ces nations partout, puis dans notre nation aussi, parce qu'on l'a dans la province, on l'a à travers le Canada, puis on l'a jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur. Et je prie que ça reste, et même que ça grandisse. Puis aussi, par rapport à ça, vous savez qu'il y a une vision locale de ça. Et là-dessus, j'amène un simple point. Vous savez, notre rôle, c'est de, on veut envoyer des missionnaires, que ce soit en les aidant à y aller, ou même si quelqu'un part d'ici de l'Église, ça serait tellement merveilleux que quelqu'un a un appel, puis qu'on l'aide à aller dans la mission dans laquelle Dieu l'appelle. Moi, je dirais Amen, gloire à Dieu, Alléluia. On va voir comment le Seigneur dirige tout ça. Mais c'est fondamental que ça parte d'une Église où est-ce que l'Église elle-même est soutenu. Et là, j'amène un point important que j'amène, je pense que quand j'ai besoin de parler de ça, comme je dis, j'en parle tellement pas souvent de ces questions-là, à peu près une fois par année. Je sais pas si je me répète, mais Si on donne partout autour de la terre pour l'œuvre missionnaire, mais qu'on ne soutient pas l'église locale dans laquelle on est, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce qu'il n'y aura pas d'église locale. Si, comment qu'on va pouvoir, je vais vous expliquer la logique ici, comment une église locale va pouvoir envoyer si elle-même n'est pas soutenue? Fait que, tu sais, c'est pas un remplacement. Puis l'idée ici, là, OK, les dîmes, les offrandes à l'église locale soutiennent pour payer l'électricité, pour payer le déneigeur qui est passé à matin, puis qu'il y a une sonnette qui fait vraiment du bruit le matin, là. Son affaire de reculon, il fait vraiment du bruit, là. Puis en plus, il a répondu au téléphone, puis pendant qu'il reculait, à un moment donné, il a arrêté, puis il parlait au téléphone, il fait bip, 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 puis il parlait au téléphone, puis ça continuait. Donc, c'est un beau réveil matin gigantesque. C'est le plus gros réveil matin que j'ai vu de ma vie. Il est très gros. Mais tu sais, c'est ça. En tout cas, ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais le principe, c'est celui-ci. On veut simplement garder les choses en ordre. Mais là aussi, je dois rendre gloire à Dieu. Il y a un zèle de cœur aussi. Des membres de cette église, des gens qui sont ici fidèlement à soutenir l'œuvre locale ici. Donc, je vous encourage là-dedans. Puis moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que je suis reconnaissant pour ce zèle à travers toutes les années, que ce soit autant pour l'église locale ici qu'au-delà. Et je pense que, là, c'est un point important que je veux amener par rapport à ça. Si c'est un zèle du cœur, si ça vient du cœur, je n'ai pas besoin, et je ne veux même pas aller là. J'ai pas besoin de tout le temps rappeler, il faut donner. Puis moi, je pense que si une église, elle est en santé, elle est vibrante pour son Seigneur, elle est fructifiante, bien, elle va avoir le zèle du cœur, puis ces choses-là vont s'en suivre. Puis, savez-vous quoi? Ça, pour moi, en tant que pasteur, ça enlève un gros fardeau sur mes épaules, puis ça en enlève un aussi sur les vôtres. Puis ça n'a pas toujours été le cas. Fait que je l'ai déjà pris sur mes épaules, puis savez-vous quoi? J'ai déjà aussi mis ça sur vos épaules. Et ça, je le confesse, je demande pardon s'il y a quelqu'un qui se sentait avec la pression là-dessus, mais l'idée, c'était pas, hey, vous êtes obligés, puis tout ça, puis on est comme dans une espèce de secte, mais je vais développer à travers le message, mais c'est plus une question d'emphase. Est-ce que l'emphase est sur le besoin de donner ou tout ça, ou, et là, écoutez bien, là, est-ce que mon but, c'est, puis d'ailleurs, c'est-tu mon rôle, ou c'est le rôle du Saint-Esprit, de s'occuper des finances de cette église, autant localement que ce qui en déborde? Mon rôle, comme pasteur, c'est d'exalter le Seigneur Jésus-Christ, puis de dire, waouh, gloire soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Puis Dieu va prendre ça, puis c'est le matériel qui va servir, puis après ça, on fait ça de toutes sortes de manières, là, on peut juste un verset dans la Bible, là, mais lorsque je fais ça, le fruit qui va s'en sortir, il va avoir un cœur zélé pour le Seigneur, dire « Wow, Seigneur, t'es donc bien merveilleux. Bien sûr que je ne vais pas me retenir pour toi, je vais me donner corps et âme tout entier, joyeusement, sans contrainte. Pourquoi? Parce que tu le mérites, parce que tu es tellement merveilleux. » Et donc, ça c'est un point important. Si c'est du zèle, on n'a pas besoin d'essayer de le créer. On peut le stimuler, on peut l'encourager, mais comment? Je m'en viens là-dessus dans le prochain point. Simplement en exaltant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça qui stimule un cœur qui appartient au Seigneur. Dire, wow, Dieu, t'en es digne, t'es grand. Et bien sûr que je veux me donner complètement pour toi, puis donner pour ton œuvre, parce que tu le mérites. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit va servir comme matériel pour non seulement produire ce zèle dans le cœur, mais aussi la deuxième disposition du cœur, la résolution du cœur. Versets 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est le verset qui est sur nos enveloppes d'offrande. Pour vous dire comment, justement, c'est la disposition qu'on désire que les gens aillent. Verset 8. « Et Dieu qui peut combler qui peut, pardon, vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Juste pour que vous remarquiez ici, là, avant qu'on parle de la résolution du cœur, voyez-vous comment qu'il y a une transformation spirituelle? On parle d'argent dans le contexte, là, pour donner au sein de Jérusalem et tout ça. Mais vous voyez qu'il y a une transformation spirituelle, c'est du fruit pour la justice. Il y a vraiment ici des bénéfices spirituels qui en ressortent directement. D'ailleurs, il y a ça, puis aussi les actions de grâce du peuple de Dieu, parce qu'il disait, « Waouh, merci Seigneur d'avoir mis à cœur à nos frères, nos sœurs, de s'occuper de nous autres. » Et donc, avec ceci en tête, j'aimerais parler de la résolution du cœur. On voit ça dans le verset 7. Je me suis rendu compte, tu sais, des fois on parle, parce que dans le cœur, là, on pense dans notre cœur, on décide dans notre cœur, puis on a des sentiments dans notre cœur. Okay. Pensée, volonté, émotion, c'est dans le cœur, c'est le centre de notre être. Puis souvent, quand je parlais de la volonté pour le cœur, je me servais de Daniel 1:8, Daniel résolu dans son cœur. Bien ici, on l'a très clairement aussi, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Une résolution du cœur. Et non seulement ce verset-là, mais les autres aussi qu'on vient de lire, nous parlent ici de la fermeté de cette disposition. Si on a un zèle, la disposition, ça parle à cette fermeté, à la continuité. C'est pas juste un zèle spontané, une affaire de « Ah, oh, j'ai été touché, puis après ça, je m'en rappelle plus. » La résolution, ça nous parle du long terme. Ça nous parle de quelque chose qui est solidement ancré, qui a une profondeur. Okay? C'est notre fidélité dans ce zèle de cœur pour le Seigneur, que Dieu lui-même, d'ailleurs, Dieu, le Saint-Esprit, que Dieu lui-même a placé dans le cœur. Et là, j'amène un point important, puis je vais avoir une illustration par rapport à ça. Est-ce que le Saint-Esprit, si c'est lui qui donne un zèle, si c'est lui qui amène la résolution dans le cœur, est-ce que c'est de la méthode, façon, est-ce que c'est dans les voies du Saint-Esprit de marcher avec la peur, la culpabilité, la menace voilée ou pas? De la colère de Dieu? Non. Ça, c'est humain. Et voici un exemple. Beaucoup de motivation à donner pour l'œuvre de Dieu. Là, quand on regarde, là, en général, regardez des messages de différentes églises, et j'en suis, j'ai déjà fait ça, où est-ce qu'on veut motiver les chrétiens à donner, soit pour localement ou soit pour l'œuvre missionnaire. Tellement souvent, la pensée qui est communiquée est celle-ci. Vous êtes aussi bien donné pour l'œuvre de Dieu parce que sinon les perdus vont aller en enfer, l'œuvre de Dieu va aller en décroissant et Dieu ne sera pas glorifié. Et comprenez bien que ces choses-là ne sont pas contraires à la vérité. OK? Parce qu'il y a plein de vérités là-dedans, c'est vrai. Mais ils sont contraires à l'esprit de Christ, à la mission de Christ, telle que révélée dans Ésaïe 61, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est quoi le problème avec l'approche que je viens de décrire? C'est que ça exalte le problème de l'homme et non pas Christ, la solution à tous les problèmes de l'homme. Voyez-vous la subtilité? C'est des choses vraies, mais l'accent n'est pas à bonne place. C'est vrai que les perdus vont en enfer. C'est vrai que l'œuvre de Dieu est dans le besoin grandement. C'est vrai qu'il y a tous ces besoins-là. Mais si c'est ça mon enfance, puis qu'elle n'est pas sur celui qui est la solution, je passe à côté de l'essentiel. Et je suis centré sur l'homme et non pas sur Dieu. C'est juste une question de focus de où nos yeux sont portés. Et donc, est-ce qu'on a besoin de manipuler, de faire peur? Pas s'il y a une résolution du cœur. Si dans le cœur, il y a un désir pour Dieu qui est réellement là, qui est présent, mais ça va être libérateur, ça va être bienfaisant parce qu'on va être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et là, on va comprendre, on va discerner que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire là, puis c'est drôle, c'est un frère qui est ici ce matin qui m'a dit ça. Faut pas sous-estimer la capacité du Saint-Esprit à former ses enfants. Si Dieu, le Saint-Esprit, vit dans quelqu'un, il va former Christ. Puis évidemment, il y a l'instrumentalité humaine. Vous ne seriez pas ici à écouter un message, vous n'avez pas besoin d'être encouragé dans votre foi, fortifié, réaligné, parce qu'on a tous tendance à s'égarer. Je ne suis pas en train d'enlever l'importance de ça. Mais je veux mettre l'emphase sur le fait que si le message de la croix est proclamé, la personne de la croix est proclamée, le Saint-Esprit va tout faire, les ramifications qui viennent de ça vont venir avec. Et donc, on arrive avec une question qui nous amène vers le troisième point, mais OK, c'est beau, s'il y a un zèle dans le cœur, s'il y a une résolution dans le cœur, OK, il y a non seulement cette flamme, et cette flamme, elle dure, OK, il y a quelque chose qui dure plus longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la pérennité, la durabilité de cette œuvre, même de génération en génération? Parce que c'est bien beau pour un individu, il y a ce zèle, cette résolution, mais comment qu'on peut passer le bâton, que ça peut se perpétuer à travers les générations? Réponse courte, ben par une foi vivante qui fait confiance que Dieu peut faire mieux que nos efforts. Puis en passant, je n'ai pas pris ça n'importe où. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, Dieu est celui qui est capable de faire la différence là-dessus. Maintenant, pour une réponse un peu plus développée, c'est la troisième disposition du cœur pour donner à la lumière du don, la reconnaissance du cœur. Et on va lire les derniers versets, 11 à 15, mais surtout, vraiment, je veux qu'on regarde le verset 15. Mais voyez ici cette reconnaissance, verset 11. « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Ça, c'est de la reconnaissance, OK? « Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. » Il dit « Wow, Dieu, tu as été bon envers eux, maintenant ils débordent de toi pour en bénéficier. » C'est ça que ça dit. Et évidemment, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Voyez-vous comment que le chapitre termine sur l'action de grâce, la reconnaissance, dire « Merci Seigneur, tu fais tout à merveille. » La reconnaissance du cœur. Et, tu sais, parce que la chair peut être zélée. La chair peut prendre des résolutions. La chair a une certaine force, mais selon M. Van Machin-Chouette, Van Geldren, ça dure à peu près 7 ans. Le zèle et la résolution de la chair, après ça, elle se fatigue. Des fois, elle passe un autre appel ou une autre méthode. Mais lorsque c'est Christ, lorsque c'est par son esprit qui vit dans ses enfants, lorsque cet amour de Christ qui nous presse et qui est répandu avec abondance dans nos cœurs par le Saint-Esprit, lorsqu'il est là et qui produit ce zèle et cette résolution du cœur, la façon de garder cette flamme allumée et de la propager à la prochaine génération, c'est la reconnaissance. Est-ce que nous donnons un héritage de reconnaissance et d'action de grâce à la prochaine génération? J'irais même plus loin. Est-ce que la prochaine génération, ils ont un « wow » de Dieu quand ils nous regardent et qu'ils nous écoutent? C'est « wow », ça c'est Dieu. Ou on leur lève plus la teneur d'une religion, d'une liste ou de... Ça, c'est fondamental. Parce qu'est-ce qu'on pense qui est vivant la prochaine génération, ça va être le fruit des actions de grâce. Ça donne le goût, quand on rend grâce, on dit « Wow, oui, j'en veux, c'est merci, t'en as-tu plus? » C'est ça qui va passer. Mais une religion, du pharisianisme, des obligations, une liste, c'est pesant, c'est repoussant. Ça peut se passer par la peur, la culpabilité. N'est-ce pas là où la chrétienté, dans toutes sortes de domaines de la chrétienté, la dénomination et tout ça, a lamentablement échoué? On a voulu faire passer la force, la puissance du message de Christ à travers le mauvais moyen. La culpabilité, la peur. Alors que la puissance du christianisme, c'est la reconnaissance. Pourquoi les premiers chrétiens ont tant répandu l'Évangile? Parce que c'était dans la simplicité de leur cœur, comme les Macédoniens, la grâce de Dieu qui était répandue, puis ils débordaient. Ils débordaient de Christ, de son message, puis ils allaient jusqu'à la mort pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient reconnaissants d'avoir pu connaître Dieu. Puis il n'y avait plus de limite à ce qu'ils pouvaient donner en retour. C'est ça la force de la reconnaissance du cœur. Et je veux juste amener quelque chose par rapport à ça qui est... Voulez-vous venir avec moi avec une petite leçon dans Genèse 3? Vous n'êtes pas obligé de lire Genèse 3, là. Mais voulez-vous une leçon du berceau de l'humanité? Moi, j'aime ça parce que c'est profond souvent. Vous savez, lorsqu'on a trouvé Jésus, le don merveilleux de Dieu, on a trouvé le vrai, l'authentique, l'éternel, la provision éternel de Dieu, la source de toutes les provisions. Fait qu'on n'est plus dans la tromperie, dans l'illusion, dans la contrefaçon. C'est ça, des fois, le monde va dire, « Ah, toi, t'es donc bien borné, t'es juste avec un livre, puis tout ça. » Non, j'ai trouvé la vie. Le reste, c'est de la contrefaçon. Pourquoi j'irais vers ce qui est pas l'authentique? Et là-dessus, écoutez bien, c'est vraiment spécial. Dans le jardin, le fameux jardin, ce qui était offert, ce que Satan a fait luire devant nos premiers parents, avec le fruit, là, pensez à ça. C'est quoi que ça dit sur le fruit? Qui était bon, qui était agréable à la vue, puis qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Savez-vous que dans ce fruit-là, les trois choses qui étaient offertes, c'est ce que Dieu est fondamentalement. Le fruit voulait offrir le succès donné, la contrefaçon de qui Dieu est. Parce que, qu'est-ce qui est bon? Il n'a de bon que Dieu seul. Dieu agréable à la vue, on peut dire, la gloire de Dieu, tout ce qui est de Dieu, même, tu sais, la création, on s'émerveille parce que Dieu est comme ça. Dieu est agréable à voir tout ce qu'il fait, puis un jour, on va être dans la félicité éternelle, puis voir Dieu, on n'en reviendra pas. Nos yeux ne pourraient même pas le prendre en ce moment, c'est trop grand, c'est trop glorieux. Donc, bon, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. N'est-ce pas toute une contrefaçon du péché et de la tromperie? Ah, tu es capable toi-même, sans Dieu, d'avoir toute l'intelligence, tout ce que ça te prend, toute la sagesse pour vivre dans ce monde sans Dieu. C'est ça, hein, qui a été offert. Alors que Dieu, on sait quand on est un enfant de Dieu, il n'y a personne d'autre que Dieu. Puis la croix, qu'est-ce que ça nous dit? La sagesse de Dieu est plus sage que la folie des hommes, dans 1 Corinthiens chapitre 1. Et donc, tout ça, mes amis, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle que dans le jardin, toute l'essence de la tromperie était là. Mais surtout, rappelons-nous, la provision de Dieu était là. Aussitôt que le péché est rentré, Dieu a promis la délivrance. Et il a dit au serpent que de la postérité de cette femme, et ça c'est une promesse qui nous amène jusqu'à Christ, cette postérité va... Satan va lui blesser le talon, ça part de la croix, mais Jésus va lui écraser la tête, la postérité de la femme. Dieu a pourvu, il l'a promis dès le début. Et ça, mes amis, on doit être tellement reconnaissant pour ça. Mes amis, on n'est pas dans une secte, on n'est pas dans une espèce d'attrape, puis justement de contrefaçon, puis de gamique, où est-ce que là, on se fait avoir, puis là, on est obligé de faire ci, puis ça. Non! Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous connaissez le Dieu vivant. Vous êtes passé de la mort à la vie. Je veux dire, s'il y a quelque chose pour laquelle on devrait être reconnaissant éternellement, c'est ça, c'est d'avoir l'authentique, celui qui vraiment est bon, qui est agréable à la vue et qui est précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est une personne. Il s'est fait connaître à nous en Jésus. La provision de Dieu est toujours meilleure. Elle est authentique, elle est bienfaisante, elle est satisfaisante. Ça, c'est la base, c'est la source de toute la reconnaissance du cœur. J'espère que ça va produire un zèle puis une résolution. Puis qu'on va voir que les pâles contrefaçons de l'ennemi du monde et de notre chair. Ça ne sert à rien. Là-dessus, je vous amène un verset que j'aime bien, dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Vous savez, je pense qu'une des armes les plus puissantes d'un chrétien, et qui malheureusement est souvent négligée, c'est que nos actions de grâce, notre reconnaissance est circonstancielle, est conditionnelle. Quand ça va bien, merci Seigneur, t'es donc bien bon, tout est beau. Mais quand ça fait mal, quand c'est dur, quand on ne comprend pas, quand on n'accepte pas les voies de Dieu, là, la reconnaissance est plus dure à sortir. Et là, c'est vraiment, c'est là qu'on voit, ouais, c'est un sacrifice. Mais ça dit, affront à lui sans cesse, constamment, dans les bons, les mauvais jours, dans les bonnes circonstances, dans celles qui sont plus pénibles, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Dieu. Dieu, tu es bon, tu vas toujours rester bon, ça ne va jamais changer, je suis reconnaissant pour qui tu es. Est-ce qu'on croit ça vraiment? Est-ce que toi ici, tu es ici, puis tu t'écoutes ceci, puis tu le crois? Concrètement. Est-ce que tu as trouvé Jésus, le trésor? Le trésor qui nous a été donné par Dieu lui-même. Et voici où est-ce que mon message à matin, qui est quand même pas très compliqué, là, par rapport au cœur, zèle du cœur, résolution du cœur, reconnaissance du cœur. Je pense que ça en appelle à rien de moins, puis là je répète mon expression, qu'une révolution dans la mentalité chrétienne. Au lieu d'être dans la culpabilité, la peur, d'être bougé, d'être motivé par la reconnaissance. La reconnaissance de la provision de la grâce de Dieu qui est versée en abondance. Dieu ne donne pas avec parcimonie, il ne donne pas chichement, il donne abondamment. Et si vous êtes un enfant de Dieu, il a versé abondamment tout son amour, sa grâce, sa vie dans vos cœurs. Et savez-vous quoi? Ce même Saint-Esprit nous soutient, nous fortifie. C'est lui qui guérit nos blessures, c'est lui qui nous console dans nos afflictions, puis de nos afflictions, dans l'épreuve. Et c'est lui qui nous appelle à lui aujourd'hui. Donc voici c'est quoi ce simple appel. Reçois l'abondance de cette grâce. Est offerte ouvertement, gratuitement. Et donc, écoutez bien ce que je vais dire ici, là. Si Dieu nous offre l'abondance de sa grâce, ça veut dire, pour la recevoir, il faut qu'on cesse de se mettre, ou je le mets en dessus, cesse de te mettre en premier par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie, parce que ce qui t'arrive, ce n'est pas premièrement par rapport à toi. Tu n'es pas le personnage principal de ton histoire, c'est Dieu. Et pourquoi souvent on devient reconnaissant, on devient aigri, tout ça, parce qu'on se met au centre et qu'on se donne l'importance qu'on ne devrait pas avoir. Si Dieu nous a sauvés et on est son enfant, c'est lui la première personne la plus importante. Puis si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, ben c'est la première chose par laquelle il faut penser. Par Jésus, c'est lui le seul qui est venu pour nous délivrer de nous-mêmes. Donc, mes amis, c'est Dieu qui nous envoie des épreuves. C'est Dieu qui permet qu'on passe par des fois des détours, des chemins qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait vivre. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, écoutez, je vais vous dire c'est pourquoi, selon Galates. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Si tu es ici et tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, puis qu'il t'arrive des choses parce que Dieu veut te révéler son Fils à ton cœur, pour que tu le connaisses personnellement. Et si tu es un enfant de Dieu ici, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si tu passes par des choses que tu ne comprends pas, qui sont difficiles à accepter, c'est parce que Dieu veut former Christ en toi. Il veut te sanctifier, il veut accomplir ses desseins. Donc voici ce avec quoi je veux simplement qu'on termine parce qu'on va répondre avec la prière. Voulez-vous qu'on s'unisse ensemble pour inviter Dieu dans ce qu'on vit puis demander à Dieu, Dieu révèle. Révèle ce qui est profond et caché toi qui connais ce qui est dans les ténèbres, puis avec qui la lumière demeure. Prions Daniel 2, 22, par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas ce que chacun vit ici. Il y en a que je le sais, mais je ne connais pas en profondeur, mais Dieu le sait. Qu'on invite Dieu à se révéler. Oui, révéler nos cœurs, peut-être que justement, on est plus dans la plainte et l'apitoiement que la reconnaissance. Oui, Dieu peut révéler ça, mais encore plus, qu'il se révèle lui. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, que le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui peut nous tirer vers le bas pour nous tirer vers le haut, que lui se révèle en ce moment dans ce qu'on vit. Seigneur, merci pour ce rendez-vous divin ce matin. Seigneur, on n'a pas parlé d'argent, c'était pas l'enfant, c'était le cœur. L'argent, c'est juste une façon souvent que la disposition de notre cœur par rapport à toi va être manifestée. Mais c'est pas ça la question principale. Seigneur, tu es le Dieu qui a créé l'univers, tu es dans un endroit inaccessible aux humains, mais Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu es avec celui qui a l'esprit contrit, le cœur brisé. Celui qui s'humilie. Et donc, Seigneur, on vient à toi. Moi, je te confesse souvent, je regimbe. Je n'ai pas cette reconnaissance du cœur. Et ça l'affecte effectivement le zèle de mon cœur, la résolution de mon cœur. Donc, Seigneur, je viens à toi te confesser mon apitoiement. Le fait que je suis si facilement centré sur moi-même. Et Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour Jésus. Merci que ce n'est pas la fin de mon histoire, que je peux prier comme ça devant mes frères et sœurs sans avoir crainte que, ah là, les gens ne m'aimeront plus. Puis... Non, merci Seigneur qu'on apprend avec toi, puis tu es tellement bon, tu es patient, merci pour ça. Et oui Seigneur, révèle Jésus à chacun ici. Dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude. Mon frère priait ça tantôt quand on était en haut en priant. Que Seigneur, on voit comment nos problèmes sont tellement petits à comparer à la grandeur de qui tu es. Oui, tu es grand, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, qu'on voit les choses dans leur perspective. À la lumière de la croix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.